Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Libre Propos, l'émission hebdomadaire de Radio Grand Ciel qui vous permet d'écouter la parole de notre évêque. Et je sais que vous l'écoutez car je sais que cette émission est pas mal écoutée et je reçois des petits mails comme ça de temps en temps à ce propos. Monseigneur, bonjour.
Bonjour Christophe, bien merci de savoir que des gens réagissent, écrivent et posent des questions.
Posent des questions ou font part de leur intérêt pour cette émission qui est particulièrement suivie. Alors aujourd'hui, on a trois sujets. On a le sujet des 13 militaires français morts au Mali le 25 novembre dernier, le voyage du pape François au Japon avec ce discours sur le nucléaire. Et puis on évoquera aussi, on retournera dans le département d'Eure-et-Loire, dans notre diocèse, pour évoquer votre visite pastorale à Dreux. La semaine dernière. Alors tout d'abord, donc, les 13 militaires français morts au Mali le 25 novembre dernier dans un accident d'hélicoptère. La Nation leur a rendu un hommage officiel hier. Les auditeurs de Libre Propos ont, j'en suis certain, envie de savoir les sentiments que vous inspire cette tragédie.
Personnellement, j'étais bien sûr comme tous les Français, en tout cas j'espère, sensible au fait que des hommes aient trouvé la mort dans ces actions militaires et ce gros accident donc d'hélicoptère. C'est digne que de servir un pays en étant soldat de la paix. Je crois que c'est, même s'ils sont armés et qu'ils sont en guerre sur place là-bas contre des gens qui sont peut-être ceux qui font le terrorisme au niveau international, qui le fomentent en tout cas. Ces jeunes avaient le courage de dire à la nation française « Nous vous servons au risque de perdre notre propre vie. » Maintenant, c'était le risque de cette guerre. On ne fait pas la guerre sans victimes et parfois sans... Parfois, enfin, il y a des morts, donc c'est sûrement à la fois dramatique, mais pas imprévisible. En tout cas, la nation les a honorés, je pense qu'ils le méritaient.
Ouais. Est-ce que la présence militaire de la France au Mali est une bonne chose, selon vous ?
Ah, moi, je suis pas un géopolitique. Je ne sais pas répondre très bien à la question de l'opportunité d'être présent au Mali. C'est pas mon rôle comme Église. On aimerait que ce pays voie la paix. C'est un pays qui n'est pas un pays riche, c'est un très grand pays. En tout cas, c'est pas le fait que des hommes soient tués qui doit interroger sur notre présence. C'est-à-dire, on ne s'en va pas parce qu'il y a des victimes. On sait qu'on risque des victimes, on risque des morts en étant sur place en guerre. Les états-majors et les politiques doivent décider si c'est à propos. Ce que je souhaite, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin de se poser la question et que le monde soit en paix et qu'on ait une véritable fraternité, on peut dire universelle, à l'image de celle qu'appelle de ses voeux notre pape François quand il parle des armements et de ce besoin de s'entendre, de cohabiter ensemble. Nous sommes unis, nous sommes destinés à être unis sur cette planète.
C'est un dernier mot pour rappeler peut-être tout de même et souligner la présence chrétienne incarnée entre autres par les aumôniers au sein de l'armée française. On oublie souvent d'en parler.
Il y a effectivement, alors peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, il y a un diocèse aux armées, donc il n'a pas de territoire, mais il y a des hommes, alors je ne sais pas si c'est pas environ 200 et quelques prêtres qui sont au service des régiments français dans les différentes armes. Et ces prêtres sont aussi qualifiés pour accompagner en opération extérieure certains corps d'armée sur le terrain. Certains aumôniers sautent en parachute, certains aumôniers sont avec les hommes, les femmes au combat. Je sais que par exemple dans la guerre du Golfe, ça avait été tout à fait une demande d'avoir, comme ils disent, le padre avec nous. Et c'est qu'une des règles, c'est que l'aumônier militaire a le grade de celui, il a un grade en tant qu'il est militaire, mais il a le grade de celui qui est en face de lui. Donc s'il est face à un homme de troupe, il a le grade de l'homme de troupe. S'il est face à un officier, il a le même grade. Donc il n'y a pas de relation d'autorité, entre guillemets, vous voyez, entre l'aumônier militaire et le soldat qui est devant lui. Je sais aussi, parce que je connais bien aussi Monseigneur Antoine de Romanet, qui est donc évêque aux armées, avec qui j'étais au séminaire, que dans les moments difficiles, l'aumônier est vraiment attendu par les hommes de troupes, hommes et femmes, bien sûr, catholiques, comme les autres, parce que c'est la personne à qui je peux parler, c'est la personne à qui je peux, entre guillemets, déballer un peu mes sentiments, peut-être ma fatigue morale. Ils sont souvent loin de leur famille, d'ailleurs, ils partent plusieurs semaines en opération extérieure, donc oui, c'est très important.
Ouais. Et pour l'anecdote, il existe... Enfin, je suppose qu'il existe toujours. Moi, je l'ai fait quand j'étais... J'effectuais mon service militaire, un pèlerinage à Lourdes, des armées.
Il y a un pèlerinage très international. Pèlerinage, je ne sais plus combien d'hommes, de femmes
c'est
vont,
énorme.
Mais oui, on me dirait que c'est 15 000, je ne serais pas surpris. Enfin, c'est un très grand moment à Lourdes.
Ouais. Deuxième sujet, le pape François est allé au Japon la semaine dernière. Il y a rencontré les derniers survivants d'Hiroshima et Nagasaki. Et il y a appuyé la demande des évêques japonais d'abandonner le nucléaire civil. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors d'abord, il est allé dans les lieux dramatiquement atteints par ces deux bombes nucléaires, la première Hiroshima, la seconde Nagasaki. On sait tous que ces lieux symbolisent à quel point la capacité des hommes est peut-être grande sur le plan militaire et désastreuse, hein, donc des centaines de milliers de morts. Nagasaki, en plus, était une ville catholique, au sens que c'était la ville des catholiques au Japon, depuis les premiers missionnaires jésuites du XVIe siècle. Donc, et la bombe à Nagasaki est tombée exactement sur la cathédrale catholique de Nagasaki, exactement dessus. 8000 catholiques sont morts à l'instant même où la bombe explosait. Et certains ont même dit, catholiques ont même dit, bien, nous découvrons que nous avons été comme l'agneau immolé à Nagasaki, pour qu'enfin cette guerre cesse, pour qu'enfin le parti de la guerre japonais abdique à la demande de l'empereur face aux Américains et que le pays retrouve la paix. Donc il y a eu vraiment un sacrifice de tous ces Japonais qui sont morts à Nagasaki et particulièrement des catholiques. Le pape est donc allé là-bas avec des propos très fermes, puisque jusqu'à présent, on considérait la dissuasion nucléaire, la possession des armes nucléaires comme un moindre mal ou un mal nécessaire pour équilibrer les forces et calmer éventuellement quelques velléités de guerre de certains. Aujourd'hui, le pape François exprime un vrai rejet de ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Je crois que c'est une vraie nouveauté.
Qui est juste un héritage de la guerre froide, finalement. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre froide. C'est pas qu'il n'y a plus de risque, mais il n'y a plus de guerre froide. Est-ce qu'il faut encore pratiquer la dissuasion nucléaire, comme on l'appelle ?
Certains aimeraient défendre ce concept. Moi, personnellement, je ne m'étais pas caché quand j'étais consacré évêque il y a un an et demi. J'ai fait un petit discours à la fin, comme il se doit. Et j'ai effectivement émis le vœu qu'il n'y ait plus de bombes nucléaires, que c'est une arme à la fois techniquement excessivement puissante, mais folle. Tant qu'elle est bien entre les mains de gens qui sont à peu près équilibrés, on peut penser que c'est pas trop dangereux. Mais cette arme qui de plus en plus est diffusée sera un jour à la main d'un fou qui peut appuyer sur un bouton. Ce jour-là, on se dira vraiment qu'est-ce qu'on a fait. Donc le pape a été très clair, le pape a eu des mots très forts, il a dit que l'usage de l'énergie nucléaire à des fins militaires est un crime contre l'homme et sa dignité, et aussi contre toute possibilité d'avenir dans cette maison commune qu'est la Terre. Autrement dit, posséder l'arme et utiliser l'énergie nucléaire à des fins militaires est vraiment un crime, et donc il dit que c'est une fausse sécurité au fond la dissuasion. D'ailleurs, nous, on sait bien qu'en France, on a eu malheureusement des attentats où des gens avec des couteaux ou quelques armes à feu font un dégât considérable. Donc, et au fond, le pape surfe sur cette idée qui est très, très chrétienne, mais qui devrait être profondément humaniste, que la véritable paix ne peut être qu'une paix désarmée. Il avait dit d'ailleurs il y a quelque temps qu'il fallait désarmer le cœur de l'homme. Vous voyez, face à la guerre, c'est d'abord le cœur de l'homme qui doit se désarmer. Et quand le cœur est désarmé, donc pacifié, et donc l'homme est un homme de paix, alors l'arme n'est plus nécessaire, comme on le souhaite.
Troisième sujet, vous avez donc effectué une visite pastorale à Dreux, dimanche et lundi. Comment cette visite s'est-elle passée ? On a vu que l'Écho républicain s'est intéressé à votre visite, notamment. Il y a un article sur votre visite au GIP.
Oui, il y aura beaucoup à dire. J'y suis allé en fait de vendredi à lundi, où j'ai fait quasiment
4 jours
à Dreux sur place, que je connaissais un peu déjà, mais on a été surtout au contact des hommes, des femmes qui sont investis au niveau social. Donc on est allé au centre d'accueil social de la commune, on est allé à la Croix-Rouge, on est allé à l'épicerie solidaire, je suis allé donc au 115, donc ce centre d'accueil de personnes qui sont à la rue, qui sont hébergées là. J'ai rencontré des personnes que j'ai trouvées assez formidables. Je pense à une femme qui s'appelle Naïma, qui est d'origine marocaine, qui est une élue de la ville, qui a été
Naïma Mfadel, hein, oui, c'est ça.
Vraiment accueillante, remarquable. J'ai rencontré Franck Carbonel, donc au relais logement, au GIP, le relais logement de Dreux. J'ai rencontré d'autres gens, je pense à une Laïla, qui était aussi remarquable avec des enfants, des jeunes. En tout cas, ces gens, ce qui m'a touché, c'est leur investissement personnel auprès des autres, leur désir que se fassent bien les choses pour des gens en difficulté. Il y a une générosité, il y a un réseau associatif à Dreux qui m'a beaucoup impressionné. Et puis aussi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'au fond, ces structures sociales, souvent de la commune, qui sont aconfessionnelles, étaient contentes de la relation avec la paroisse, étaient contentes de travailler avec des catholiques qui sont investis chez eux dans leur propre structure ou bien en vis-à-vis, c'est-à-dire qu'en partenariat, quoi. Il y avait cette idée que la collaboration entre l'Église catholique et les services sociaux était tout à fait profitable à cette dynamique d'accueil, d'entraide des personnes.
Ouais. Une dimension sociale parfaitement incarnée par les catholiques drouais, donc.
Oui, j'ai appris par exemple que les premiers migrants, notamment des Afghans, une vingtaine accueillis à Dreux, l'avaient été par la paroisse, dans la maison qui aujourd'hui est le logement des Sœurs de Saint-Jean, que ça avait été à l'époque un choix un peu complexe à expliquer tant à la ville qu'aux catholiques eux-mêmes, qui ne comprenaient pas pourquoi on prenait soin de tant de migrants, etc., tout ça. Et que la connaissance mutuelle avait permis à tous de dire « mais c'est une très bonne chose ». Et la commune s'était investie aussi auprès de l'Église pour prendre le relais après, lorsque les sœurs sont arrivées. Donc il y a tout ce process de stimulation mutuelle, bienveillant, positif entre l'Église et les services. J'aspire vraiment à ce qu'on ait ça. D'ailleurs, j'étais aussi à l'hôpital de Dreux, où pareillement, le directeur de cet énorme hôpital, 2000 personnes, a dit que dans cet hôpital, bien sûr, des gens de plusieurs confessions venaient, tant dans le personnel soignant que dans les patients, et que lui sentait que c'était important, cette dimension religieuse, ça habitait leur vie, qu'il y était sensible, était sensible à ce qu'il n'y ait jamais d'irrespect entre les personnes, celles qui travaillent comme celles qui sont accueillies dans cet hôpital, eu égard à leur situation sociale ou religieuse personnelle, et que l'aumônerie était un vrai bienfait. Notamment en cancérologie, une femme médecin nous disait que la présence, l'écoute que faisait l'aumônerie était tellement importante à des gens qui sont gravement malades, parfois en fin de vie, qui ne savent pas à qui parler, qui ont besoin d'être rassurés, d'être un peu peut-être consolés d'ailleurs aussi, et que vraiment l'aumônerie avait pleinement sa place dans l'hôpital.
Une belle visite, donc.
Une très belle visite, oui. Pleine d'autres rencontres, de jeunes. J'étais aussi en lycée et parlais à une cinquantaine de jeunes pendant une heure sur le lien entre l'Église et l'écologie, par exemple. J'ai vu des gens dans la paroisse, des enfants de cœur, à qui j'ai parlé aussi le dimanche matin. Enfin, c'était beaucoup de rencontres, lors des déjeuners aussi, de grande qualité.
Monseigneur, merci beaucoup. On arrive vraiment au terme de cette émission. Merci à Simon Martin en régie technique. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, si vous en êtes d'accord, sur les ondes de Radio
Avec grande joie pour ce temps de l'Avent, vers Noël.
Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et restez à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel, la radio qui, plus que jamais, rapproche les hommes.